De ce côté-ci de la lorgnette, le passé ressemble à l'idée qu'on se fait du bout du monde. Je n'ai pas trop de mal à me propulser dans les époques précédentes, même celles lointaines, où je n'ai jamais mis les pieds. Comme celui d'Alice, mon imaginaire n'a aucune difficulté à traverser le miroir et à se transposer au plus loin des ailleurs. Cela ne me prend qu'une fraction de seconde pour avancer de 3 siècles en arrière. Cela pourrait très bien se faire pour le futur. Mais le recul nécessaire pour me figurer l'avenir me donne la frousse. Il semble que je ne suis pas tout seul. Il faudra un jour que je m'en occupe, que je prenne le dragon par les cornes et que je batte le taureau pendant qu'il est encore chaud. Ce pourrait bien être le point de départ d'un roman. On ne sait jamais. Tu me diras que j'ai l'esprit papillonnant. Mais j'éprouve un malin plaisir à te faire quelques cabrioles avant de retomber les 2 pieds sur terre. Il est difficile d'écrire sur toi sans avoir l'impression d'être un éléphant dans une boutique de porcelaine. Ceux qui pensent que ce livre est écrit dans le but de te cerner et d'en faire un brillant morceau d'histoire de l'art, devraient le refermer tout de suite. Ils n'ont pas compris que tes œuvres parlent d'elles-mêmes. Tu sais regarder parce que tu as appris à voir en fermant les yeux. J'avance dans les temps transparents. Je regarde dehors. Et je me retrouve devant un champ de blé. La maison blanche qui bloquait l'horizon tout à l'heure n'y est plus. Elle a été remplacée par un court de tennis en terre battue. Je pourrais le décrire dans les menus détails. Vague sensation de bord de mer. Vague paysage qui se trouve là où je ne suis encore jamais allée. Disons, sur la côte irlandaise, ou celle de l'Inde. Il n'y a aucune limite au pays qui existe entre nos 2 oreilles. Je pourrais prendre plusieurs pages pour faire ressortir une de ces atmosphères. Je construirais ensuite un roman d'amour qui se déroulerait à un endroit ou l'autre. Je me mettrai à traquer le réel dans ses retranchements les plus intimes. Mais ce n'est pas le genre de la maison. Le tennis s'évanouit à son tour. Au même endroit se dressent des tentes d'ouvriers. Ils construisent un chemin de fer qui passait par là au début du siècle dernier et qui n'existe plus. Des voitures à chevaux transportent des rails. Des travailleurs étrangers aplanissent des collines qui délimitent des baraquements devant un mince filet d'arbres. Voilà. Maintenant, j'y suis. Ça y est. L'endroit exact que je cherchais dans le catalogue du passé se précise. Je te vois. Je t'imagine, enfant, dans le Québec de la fin des années 1930. Ce n'est pas difficile. Je n'ai qu'à me rappeler le rire que tu gardes en réserve à propos de tout et de rien. Sherbrooke, 1938. Tu te tiens au bord de la rue Marquette. Tu as 8 ou 9 ans. Le mois d'avril vient de se mitonner un de ses redoux. Le soleil s'impose sur le froid de l'hiver traversé de bouffées de chaleur. La nature transpire de partout. De ta bouche s'envole une petite fumée qui monte jusqu'aux nuages détourés de bleu. La terre recommence à sentir la terre. Même si rien ne paraît, Les arbres tissent leur garde-robe printanière, qui poussera bientôt dans tous les tons d'émeraude, de jade et de pistache. Tu peux maintenant grandir et devenir qui tu es. Tu viens de t'asseoir sur la chaîne de trottoir. Ta mère sera mécontente lorsqu'elle saura que c'est là que tu t'es enrhumé. Mais c'est une autre histoire. Tu portes ton parka, ton chandail, ta tuque rouge et tes mitaines de laine. Tes bottes en caoutchouc prennent l'eau. Tu contemples une feuille de chêne. Elle nage 20 000 lieues sous les mers qui ruissellent au bout de tes pieds. Même si tu ne l'as pas encore lu, Jules Verne, que tu dénicheras bientôt à la bibliothèque scolaire, exerce déjà sur toi une fascination absolue. Le Nautilus du capitaine Nemo vient de te passer sous les yeux, mais tu ne sais encore rien de son existence. Dans ta tête d'enfant, les feuilles de chêne se transforment en sous-marins. Les chevaux de bois s'attablent aux nappes blanches des nuages. Les tiroirs de bureau sont des coffres de pirates, pleins de saphirs et de doublons espagnols. Tu lis, tu rêves, tu fais tes gammes. Tu es touché par la beauté du monde, celle que l'on voit et celle que quelques-uns d'entre nous ont la folle et difficile et heureuse tâche de réinventer. C'est du côté cœur que naît le talent artistique. Et cela restera chez toi. Ton habileté à créer du neuf se perpétue, toujours, jusque sur les socles des musées, jusque sur les murs des stations de métro, les murales des édifices publics, des bibliothèques, des écoles, les sculptures des rues, les tasses et les soucoupes, les bols et les assiettes des armoires de cuisine, jusque partout, dans le temps et le vent, dans les sourires de la terre et les regards du monde. C'est presque une vingtaine d'années plus tard. Après la Deuxième Guerre mondiale, bien après. C'est la raison pour laquelle je viens de tirer deux lignes blanches pour coiffer ce nouveau paragraphe. L'écriture a ses façons bien à elle de sauter la clôture du temps. Tu as dans la vingtaine. Tu es dans tes valises. Tu te prépares à partir pour l'Europe. Tu quittes bientôt cette province du Nouveau Monde peinturée dans un coin par l'obscurantisme ambiant. Elle a un tout autre visage que celui qui règne de nos jours sur la pâleur du monde. Tu vogueras bientôt vers le vieux continent qui vient de prendre un sérieux coup de jeune. Le mystère entre dans nos vies de toutes sortes de manières. Le voyage en est une parmi d'autres. On doit parfois partir ailleurs pour apprécier l'ici. Il faut semer des années derrière soi pour que poussent les graines du présent. Tu te trouves plusieurs semaines sur l'eau. Petit Jonas qui s'est de lui-même fait prisonnier du ventre plombé d'un navire marchand. Tu viens de recevoir une bourse pour apprendre à farfouiller la terre et à innover. Tu aimes l'océan. Tu adores l'océan. Tu le connais depuis 1000 ans. depuis que le Nautilus a traversé des rigoles de neige fondues au bout de tes bottes en caoutchouc percées. La mer te fait penser aux yeux de Suzanne, ta fiancée, qui même de loin ne te déserte pas. Dans le navire qui te mène à Faenza, tu lis et tu regardes la mer. Tu regardes la mer et tu lis. Tu penses à Suzanne. Tu dessines peut-être son visage en rose et en vert dans les marges des livres qui t'accompagnent. Que faire d'autre lorsqu'on n'a pas eu la grâce d'être marin et qu'on est enfermé dans une baleine à moteur au milieu de nulle part? Tu passes un an en Italie. Tu t'étonnes que les artisans et l'industrie de là-bas travaillent main dans la main. Tu aiguises ton regard. Tu mets dans tes bagages des idées et des façons de faire qui te serviront plus tard dans ton enseignement. Tu savoures la langue italienne dont chaque mot se termine par une voyelle, par une chanson. Tu confrontes la mythologie de la terre aux erreurs de tes mains et au feu qui fait exploser des pièces confiées à son jugement implacable. Il y a ce proverbe chinois qui dit l'essentiel sur le fait d'être apprenti. Il dit qu'apprendre est gravir une montagne de couteaux avec des sandales de paille. Il semble que j'ai déjà écrit ça quelque part. Il faut parfois se répéter le plus important pour arriver à s'en souvenir, une fois pour toutes. Les œuvres que l'on met au monde ne sont jamais que les esquisses de nos rêves. La matière résiste autant que les mots. Le chemin d'apprendre n'en finit jamais. La terre ne chante que si on arrive à se faire aussi humble qu'elle. L'étymologie du mot humble vient de humus, qui veut dire sol. Tu connais ce mot-là, je crois. Tu passes quelque temps à Rome, dans l'atelier de Nino Caruso. On dirait un nom de chanteur de bel canto, ou celui d'une trattoria della Piazza Barberini. Mais c'est un maître céramiste. Tu t'achètes une Vespa et tu quittes l'Italie. Tu te diriges vers Paris, où tu apprendras d'autres secrets du métier chez Francine Delpierre, qui te montre à faire des miracles aux Colombins. Mais avant, 2 mois de route à traquer la beauté comme un voleur de grand chemin, à visiter les vieilles pierres, à percer les mystères des châteaux et des cathédrales. La vie est devant toi. Tu sais maintenant que ton élément de prédilection est une combinaison de ces 4-là, la terre, l'eau, l'air et le feu. Il y a un élément qui manque. Il est essentiel. On est en 1957. Suzanne te rejoint à Paris. Mariage. Repas bien arrosé avec des amis au bistrot du coin. Voyage de noces à la Tour Eiffel, avant de vous retrouver le soir dans la petite chambre que loue Madame Elias, 101 rue du Cherche-Midi. Quand on regarde les photographies qui ont été prises pour l'occasion, on se croirait dans un film de la Nouvelle Vague. Suzanne m'a confié l'autre jour que vous aviez eu une bonne vie. C'était un beau moment. Elle n'avait pas vraiment besoin de m'en dire davantage. J'avais déjà tout lu dans ses yeux.